Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Une chose qui nous réunit tous et toutes, sans doute, c'est de regarder les étoiles et d'imaginer ce qui peut arriver, d'y voir des incidences, des hasards. Moi, l'astrophysique, c'est un sujet que je connais pas, et en même temps, qui me passionne. Est-ce qu'il y a de la vie sur Terre? C'est quoi la place de l'invisible? C'est quoi la place du sensible? Comment ça se forme une étoile? C'est quoi un trou noir? Est-ce qu'il y a de la vie sur d'autres planètes? Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir David Elbaz. David, c'est un directeur de recherche au CEA, donc au Commissariat à l'énergie atomique. Il a reçu pas mal de prix, dont le prix chrétien de la Société américaine d'astronomie. Il a écrit énormément de livres. Il est également professeur, managing director aussi de la revue scientifique européenne Astronomie et Astrophysique. Et aujourd'hui, on va parler de tous ces sujets qui sont totalement passionnants, d'autant plus que David y prend un plaisir particulier à rendre extrêmement accessibles ces connaissances qui peuvent nous sembler extrêmement compliquées, extrêmement lointaines. Donc je vous laisse écouter cet épisode que j'ai trouvé passionnant et vous verrez à la fin que je suis extrêmement frustré, donc on fera sans doute un deuxième épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour David, est-ce que tu vas bien aujourd'hui ?
Bonjour Grégory, oui je vais très bien, merci.
Bon, j'ai une première question qui va sans doute donner de l'espoir à des parents. Comment on fait pour redoubler, une fois je crois, c'est une fois que tu as redoublé, pas deux fois, sa seconde, c'est ça si je ne me trompe pas, et être astrophysicien ?
Alors, effectivement, je m'y suis pris à deux fois parce que j'ai doublé la seconde et j'ai aussi doublé la terminale. Et je me suis toujours demandé pourquoi je n'avais pas doublé la première. Et c'est parce qu'en fait, à l'époque, on ne pouvait pas. Sinon, j'aurais pu aussi. Et pour moi, la leçon que j'ai tirée de ça, c'est d'une part... c'est le fait que j'étais un peu ce que les gens appelaient un rêveur, mais c'est aussi le fait que lorsqu'on entend quelque chose, ça fait réfléchir. Et j'ai réalisé que ce n'était pas l'objectif de l'éducation.
Ah oui, non.
ce qui peut paraître surprenant et qui peut avoir des implications et qu'on m'a beaucoup reproché. Mais aussi, je rêvais pas nécessairement de choses intelligentes. C'est vrai que si je tiens à partager cette expérience avec tout le monde, c'est pour dire que bon, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient confiance, donc qui m'encourageaient, et la passion qu'on peut avoir pour la connaissance, elle n'est pas nécessairement directement corrélée avec le succès qu'on peut avoir dans la capacité de reproduire ce qu'on attend de nous, de manière assez mécanique, dans les études scientifiques. C'est un peu péjoratif ce que je dis là. En fait, les professeurs font un travail exceptionnel, mais qui n'est pas adapté nécessairement à tous les profils de tout le monde. Par exemple, si on dit à un jeune que lorsqu'une pomme se décroche d'une branche d'un arbre, et qu'elle est attirée par la terre qui fait qu'elle tombe, et qu'on écrit l'équation à quoi ça correspond, si le jeune dit « moi, ça ne me parle pas, je ne suis pas fait pour ça », c'est qu'il est sain d'esprit. Parce que c'est de la pure magie, c'est de la télékinésie. Et Newton, quand il a découvert ça, il était lui-même complètement troublé. Le révérend Bentley lui a envoyé une lettre en lui disant « si vous dites qu'une pomme est attiré à distance par la terre, c'est la preuve de Dieu. Parce que il n'y a aucune raison que la pomme tombe. Comment sait-elle qu'il faut aller dans la direction de la terre, ce qu'on appelle vers le bas? parce qu'elle est dans le vide. Et donc, si elle le sait, c'est qu'il y a quelque chose qui remplit le vide, et c'est la présence divine. Et donc, l'élève qui dit que pour lui, le discours qu'on lui donne n'est pas digeste et qu'il ne comprend pas, c'est sain, quelque part. Et pour, donc, voilà. Alors, donc, je pense que le premier message que j'aimerais donner, par exemple, à quelqu'un qui s'interroge sur le fait qui se dit, voilà, la physique, la science, c'est pas pour moi. Effectivement, quand on voit un grand yogi qui a une grande capacité de respiration, qui peut retenir sa respiration pendant plusieurs minutes, on peut se dire que la respiration, c'est pas pour moi. Et pourtant, si on décide d'arrêter de respirer, on va pas vivre. La science, elle appartient à tout le monde, elle appartient pas à la tour d'ivoire des scientifiques. Les questions que chacun se pose sont tout aussi pertinentes que les questions que se pose le plus grand des savants. Mais effectivement, il faut être patient. Et j'ai eu la chance de pouvoir recommencer à une époque où on pouvait doubler et quand même continuer et finir par exprimer ma passion pour la science après. Et voilà, donc effectivement, ça a été un peu longué.
Et alors, vous faisiez référence à Dieu. Il me semble que vous êtes intéressé à l'astrophysique parce que vous aviez... Alors, je ne sais pas si c'est une peur de la mort, mais en tout cas, la mort, ça vous intriguait. C'est quoi le lien entre la mort et l'astrophysique?
Oui, ça peut paraître bizarre. En fait, quand j'étais jeune, avant de m'endormir, j'avais une peur bleue de m'endormir parce que j'avais l'impression que c'était un peu comme si j'allais pas me réveiller. Et je pensais à la mort. Et la façon que j'avais de penser à la mort, je suis désolé de raconter ces histoires-là, mais c'est je me disais, finalement, la mort, ça ne pourra pas m'arriver parce que je ne vois pas, j'arrive pas à imaginer que ça m'arrive. Et comme ce n'est pas imaginable, c'est impossible. Et le problème que j'ai rencontré assez rapidement, c'est qu'il existait quelque chose que je n'arrivais pas non plus à imaginer, mais qui semblait être possible, c'était l'existence d'un univers infini. Et donc, je me suis dit, là, j'ai un problème. Et donc, j'ai essayé de visualiser l'univers infini. Et donc, j'étais dans ma chambre, je le visualisais jusqu'à une certaine limite. Et puis, j'essayais de repousser la limite. Je le voyais de plus en plus loin. Et quand j'atteignais la limite de mon imagination, de l'espace que je pouvais visualiser intellectuellement, et je me rendais compte que j'avais une capacité limitée et que malgré tout, l'univers existait, je savais que j'allais mourir. Et là, je filais dans le lit de mes parents. Et donc, je crois que inconsciemment, j'ai choisi l'astrophysique sans le savoir pour essayer de comprendre l'infini et pour essayer de me dire que du coup, il ne reste plus que la mort et comme je ne peux pas l'imaginer, donc ça n'existera pas. Mais... Et depuis, ce que j'ai trouvé, c'est autre chose. C'est que je me suis rendu compte que l'univers n'avait rien à voir avec ce que je pensais, qu'en réalité, lui-même a eu... en quelque sorte un commencement, qu'il grandit, qu'il change, qu'il y a des étoiles qui naissent, d'autres qui meurent, etc. Et que finalement, je n'avais pas besoin d'essayer de ressembler à un univers éternel et infini. Finalement, c'était lui qui nous ressemblait. Et que finalement, le fait que notre vie soit éphémère, le fait que chacune de nos pensées soit éphémère, de nos actions soit limitée, que nous soyons des êtres limités... c'est quelque chose d'universel et qui participe à la beauté et à la force de la vie, de la même manière qu'un flocon de neige, finalement, c'est quelque chose d'évanescent. Et pourtant, ça peut faire une avalanche, ça peut faire la beauté d'une montagne enneigée. Ça peut... Et donc, voilà, ça m'a conduit à une forme d'appréciation de notre condition d'éphémètre humain.
Éphémètre humain. J'aime beaucoup ce mot. Bah alors du coup, si je t'entends bien, l'univers, il n'est pas infini.
Alors, effectivement, il se trouve qu'à l'époque, quand j'essayais de l'imaginer, je pensais qu'il était infini. Et depuis, je me suis rendu compte qu'on ne sait pas si l'univers est infini ou pas. Alors, en plus, déjà, il y a plusieurs types d'infinis. On pourrait imaginer que lorsque je déplace mon doigt sur la surface d'un ballon, je ne rencontre jamais de frontières qui empêchent mon doigt d'avancer. Donc, mais pourtant, la surface du ballon est finie. Donc, il existe cette forme d'un univers sans limite qui n'est pas infini. Mais donc, l'univers pourrait être comme la surface d'un ballon, mais il pourrait être aussi infini ou il pourrait être... fini. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à cette question-là.
Mais de toute façon, est-ce qu'on est capable... Enfin, je ne sais même pas si l'esprit humain est capable de penser l'infini, enfin, par définition.
Alors, on n'est pas capable de penser l'infini, et ce qui est assez troublant, c'est qu'on n'est pas non plus capable de penser l'infiniment petit. Ah. C'est-à-dire, non pas quelque chose qui soit très petit, quelque chose qui est infiniment petit. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans les deux grands domaines de la physique quantique et la théorie de la relativité d'Einstein, où on s'aperçoit que dès lors que la théorie essaye de s'approcher de quelque chose d'infiniment petit, elle atteint des énergies qui tendent vers l'infini et elle explose. Elle-même, la théorie, alors qu'on pourrait se dire que si mon intellect n'arrive pas à englober l'infini de l'univers, peut-être au moins que mes mathématiques, mes équations pourront appréhender quelque chose qui est infiniment petit, etc. Et en fait, non. C'est-à-dire, dans les théories actuelles, dès lors qu'on s'approche, même d'un point de vue virtuel, mathématiquement, de l'infiniment petit, tout explose. Et tout devient infiniment... Donc, par exemple, si on allait au centre d'un trou noir, de façon concrète, l'énergie devient infinie. Si on allait au centre d'un électron, l'énergie devient infinie. Et c'est ce qui fait que des gens inventent des théories dans lesquelles on ne peut pas aller infiniment petit. On ne peut pas parce que soit l'univers est comme une plage, il est fait de grains d'espace, soit parce que les particules sont en réalité des petites cordes, théorie des cordes, voilà. Et d'autres imaginent encore d'autres idées. Mais donc, on s'aperçoit que quelque chose qui nous échappe intellectuellement est aussi finalement une intuition qu'on n'arrive pas à toucher l'infini, que ce soit par un côté ou l'autre, c'est-à-dire l'infiniment grand ou l'infiniment petit. C'est une question qui a évolué, qui est devenue de plus en plus sophistiquée dans des théories qui sont extrêmement complexes et qui finit par dire toujours la même phrase. Il y a une limite à notre capacité à connaître. Et ça... C'est ce que Nicolas de Cuse appelait au XVe siècle une forme de docte ignorance. Il disait, lorsqu'on atteint ce moment où on arrive à une situation paradoxale où ce qui est infiniment petit devient infiniment grand, puisque l'infiniment petit devient infiniment grand en termes d'énergie, alors on déchire le tissu de notre connaissance, la grille avec laquelle on peut lire le monde, et ça permet à la lumière de passer. Et lui, pour lui, cette vision-là, c'était que cette vision paradoxale où les infinis se rencontrent, c'était le moyen d'accès pour le savant vers la lumière divine. Voilà, pour lui, c'était ça.
T'as parlé tout à l'heure de trous noirs. Du coup, j'ai plein de questions bêtes et méchantes, mais néanmoins, je pense que pour les gens qui ne sont pas dans l'astrophysique, ils ne savent pas ce que c'est. C'est quoi un trou noir précisément? Et je sais qu'il y a un rapport avec la lumière, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, un trou noir peut créer de la lumière, ce qui semble assez paradoxal, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais je veux bien que tu m'expliques ce que c'est qu'un trou noir, enfin que tu nous expliques du coup ce que c'est qu'un trou noir. Et s'il y a...
Alors justement, je peux commencer par ce que tu viens de dire à la fin, pour aller juste à la définition du trou noir. C'est que, en fait, la science, c'est une forme de grille de lecture d'un monde complexe, qui est très varié, fait de phénomènes qui semblent être différents les uns des autres, et la science essaye d'abstraire une forme d'universalité. Mmh. Et elle plaque une sorte de grille de lecture. Par exemple, on peut dire qu'il y a des choses qui s'attirent, des choses qui se repoussent. La Terre attire la Lune, par exemple, des choses comme ça. Et parmi les grilles de lecture qui sont efficaces, il en existe qui ne relèvent pas véritablement de la science, mais par exemple, le principe d'alternance entre le yin et le yang, qui vient de la philosophie orientale, s'applique à merveille dans l'exploration de l'univers. Et par exemple, lorsqu'on pousse le yang à son extrême, germe le yin, et inversement. Alors, l'une des expressions du yang, c'est la lumière, l'une des expressions du yin, c'est l'obscurité, de manière simpliste. Et inversement, si je pousse l'obscurité à son extrême, je rencontre le yang, l'émergence du yang. Le plus extrême dans l'obscurité, c'est le trou noir. Or, on se rend compte que lorsqu'on atteint cet extrême du yin, émerge le yang, émerge la lumière. Et ça, il a fallu des théories très sophistiquées pour se rendre compte. Dans un premier temps, on a d'abord découvert une étoile qui se trouvait être à des milliards d'années-lumière de nous, et donc beaucoup plus loin que les étoiles qu'on connaît, mais qui brillait quand même comme une étoile. Et du coup, on s'est dit que pour qu'elle brille comme une étoile, en étant si loin, c'est qu'elle est très 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 puissante. Et elle était typiquement 1000 milliards de fois plus lumineuse que le Soleil. Et donc là, on a découvert que lorsque de la matière tombe dans un trou noir, elle chauffe à de très hautes températures et elle rayonne juste avant de tomber dans le trou noir. Donc déjà, le trou noir est indirectement une source de lumière. Et puis plus récemment, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas si je peux raconter cette petite anecdote.
Ah, si,
si. Oui. Donc il y a ce scientifique américain qui s'appelle John Wheeler, qui était dans son bureau et qui se verse une tasse de thé. Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours eu des idées très originales et il se dit, dans l'univers, les choses ne peuvent pas disparaître complètement. En particulier, il y a ce qu'on appelle l'entropie, qui caractérise une propriété de la matière. Par exemple, le fait que quelque chose soit chaud, il a plus d'entropie que s'il est froid. Et il se dit, si j'ai du thé chaud, qui a de l'entropie, si j'avais un petit trou noir à côté de moi et que je versais mon thé dans le trou noir, finalement, il disparaîtrait de notre monde puisque le trou noir est séparé finalement. On peut pas voir ce qu'il y a dans le trou noir. Et il dit, ça me gêne ça, parce que ça viole la physique. Et sur ce, il y a son étudiant à l'époque qui était juste avant sa thèse, qui arrive et qui voit que John Wheeler est embêté et il lui demande qu'est-ce qui se passe, et Wheeler lui raconte son histoire. Il dit, qu'est-ce que t'en penses? Alors, l'étudiant, Jacob Bekenstein, s'en va dans son bureau, travaille pendant 2 mois, et quand il revient, il lui dit, mais attendez, professeur Wheeler, lorsque vous avez versé votre tasse de thé il y a 2 mois dans ce petit trou noir que vous avez imaginé, le trou noir est devenu un tout petit peu plus massif. Hein, et donc, son horizon a grossi un tout petit peu. Et donc, finalement, cette tasse de thé a eu une implication et vous ne pouvez pas dire que le trou noir a une surface parfaitement définie car il y a un principe d'indétermination en physique, dans mécanique quantique, principe d'incertitude, qui fait que rien n'est connu avec une précision infinie. Et donc, comme on ne peut pas aller infiniment petit, puisque finalement la mécanique quantique l'interdit, ce trou noir, il a une peau, comme la peau d'une orange. Or, la peau d'une orange, elle a des granularités, parce qu'elle a une épaisseur. Et cette granularité, ce sont des propriétés qu'on n'avait pas vues dans les trous noirs et qui sont analogues à ce qu'on appelle l'entropie que vous avez versée dans le trou noir. Et donc, il invente un mécanisme. Et sur ce, Stephen Hawking, le grand physicien, entend parler de ça et se dit, oh là, ça ne peut pas être vrai, parce que si c'était vrai, ça voudrait dire que les trous noirs ont une température et peuvent rayonner de la lumière. Et donc, il se met à écrire des équations pour prouver que c'est faux. Et ce faisant, il s'aperçoit que c'est vrai. Et donc, il écrit un article dans lequel il explique que non seulement les trous noirs rayonnent, mais qu'ils vont finir par exploser et transformer toute la matière qui est tombée dedans en pure lumière. Et dans cet article, il aurait normalement dû dire, sur une idée de John Wheeler qui a été résolue par Jacob Bekenstein, j'ai lancé une réflexion qui m'a conduit à ce résultat. Au lieu de ça, il présente son article comme étant une découverte et il écrit, oh, incidemment, il y a eu un type, Bekenstein, il écrit son nom avec une faute d'orthographe, qui a posé cette question, enfin, il le cite un petit peu, mais il marque pas, il cite pas l'article. Au final, qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? C'est que ces trois hommes, Wheeler, Bekenstein et Hawking, ont complètement révolutionné la compréhension des trous noirs qui sont devenus les plus puissantes sources de lumière du monde, qui sont capables de s'évaporer sous la forme de lumière et finir par exploser. Ce sont des véritables bombes de lumière. Et toute la physique de ce qui se passe à l'horizon des trous noirs, cette peau d'orange, est devenue la possible théorie du futur qui permettra de réconcilier l'infiniment petit avec l'infiniment grand, parce que de ces développements mathématiques à l'horizon des trous noirs sont nés des théories qui sont l'espoir de la physique de demain. Et tout ça est né dans le bureau d'un physicien qui a osé se poser une question naïve qui était « Et si je versais mon thé dans un trou noir ?»
Et justement, j'ai une question pour toi. C'est quoi l'importance des questions naïves? En fait, moi en ce moment, je réfléchis beaucoup à la gestion de l'incertitude. Et dans la gestion de l'incertitude, il y a justement ce besoin, puisque le normal change dans l'incertitude. Enfin, en tout cas, dans la période dans laquelle on est en train de rentrer. Et du coup, je me dis, il faut, un peu comme Socrate, se poser des questions extrêmement simples. C'est quoi et alors qu'on n'a pas tendance à vouloir le faire quand on a de l'expérience. Comment on fait d'abord, c'est quoi l'importance des questions simples? Et comment on fait quand on a beaucoup d'expérience, comme toi, par exemple, pour se reposer des questions simples?
C'est une très bonne question parce qu'effectivement, on a tendance à se laisser piéger dans ce qu'on appelle la tête dans le guidon, dans la complexité de ce qu'on construit, et parfois même dans une forme d'illusion narcissique, où on s'auto-satisfait des constructions qu'on a produites, et qui peuvent être pertinentes, parce que parfois, il faut avancer très loin dans la construction d'un modèle ou d'une réflexion pour finir par aboutir à quelque chose qui va changer notre compréhension. Mais on se rend compte que l'aboutissement d'une réflexion ultra complexe est parfois quelque chose qui peut s'exprimer de manière naïve et simple. Et qu'on aurait dû, a posteriori, on se rend compte a posteriori qu'on aurait dû formuler dès le départ comme étant une question intéressante et simple. Mm-hmm. Pour te donner un exemple, une fois, j'assistais à une conférence avec des scientifiques de très haut calibre qui avaient tous des réflexions de très haut calibre face à une présentation de très haut calibre. Donc, on était sur du haut calibre. Sauf que moi, j'étais un jeune étudiant, et donc je me disais, ces gens-là sont tous très calés, et si je ne comprends pas ce qu'ils disent, ça prouve que c'est du haut calibre, donc c'est bien. Ça veut dire que je vais apprendre des choses parce que je ne comprends rien. Sur ce, un type au premier rang lève la main et commence à poser une question naïve. Et là, je me dis, ce type, il n'est pas au même niveau que les autres, il est en dessous des autres, parce que je comprends sa question, et d'une. Et en plus, elle est naïve et c'est tout juste si je serais même pas capable d'y répondre. Et le type pose comme ça 2-3 questions. Je finis par demander à un voisin, mais qui c'est ce type qui ose poser des questions aussi naïves que ça? C'était Jim Peebles, qui est celui qui a découvert étudiant le Big Bang, avant Penzance et Wilson, qui leur a expliqué ce qu'ils avaient découvert quand ils ont vu le fond diffus cosmologique, qui a reçu de nombreux prix à la suite de ça, qui a complètement révolutionné la physique. Et puis, j'ai re-regardé les questions naïves qu'ils posaient. C'était il y a plusieurs dizaines d'années, et à l'heure actuelle, on n'a pas de réponse à ces questions, et pour la plupart, on les garde bien sous le tapis. Je comprends maintenant pourquoi on se méfie des questions naïves.
Socrate, il était assez malin pour ça. On va continuer sur des questions naïves, justement. On a beaucoup de films sur la conquête de l'univers. On voit Tesla, Elon Musk vouloir aller sur Mars, etc. etc. D'abord, je pense qu'il faut se reposer une question simple. C'est quoi une étoile? Enfin, donc, on connaît le Soleil, évidemment, on a tous ça en tête. Mais c'est quoi une étoile? Je sais pas, c'est une question bête, mais je me pose la question. Et comment ça se forme? Est-ce que ça se forme dans les trous noirs, du coup? Comment ça marche, en fait?
Alors, l'objet étoile, si on le regarde de loin, c'est quelque chose d'assez intéressant. Parce que finalement, l'univers, il a vécu une sorte d'explosion, même si le mot explosion n'est pas approprié, il y a 13,8 milliards d'années, donc ce qu'on appelle le Big Bang, même si on ne sait pas trop ce que c'est, mais acceptons l'idée qu'il est en expansion. Donc on a un ensemble d'atomes qui sont projetés, donc si j'avais un sac de billes et que je jetais dans le ciel, hein, voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Et ça déploie l'espace, etc. Là-dedans va émerger le Soleil. Et donc, avant même de savoir exactement ce que c'est de façon... avec une manière fine de la physique du Soleil, au premier ordre, le Soleil, c'est un endroit dans l'espace où de la matière produit de la lumière. C'est une source de lumière, on la reçoit, elle nous chauffe, etc. Tout le monde conviendra de ça, même si tout le monde ne pourra pas expliquer précisément le mécanisme qui se passe à l'intérieur pour faire cette lumière. Et on peut se demander tout simplement comment, à la suite d'une explosion, moi je ne sais pas si je fais exploser quelque chose dans mon jardin, ça ne va pas fabriquer une étoile. Comment une explosion peut-elle donner naissance à une source de lumière comme ça? Et en fait, au niveau du principe, c'est un peu comme l'histoire de la tasse de thé. Et ça revient finalement à cette question que tu posais tout à l'heure, c'était quelle est la force, l'intérêt, la pertinence des questions naïves et simples? Et je pense qu'il faut toujours revenir à quelque chose de très simple. Et en pratique, une étoile, ce n'est pas la définition qu'on va trouver ni sur Wikipédia, ni dans les dictionnaires ou les encyclopédies d'astronomie. C'est une machine qui prend de l'énergie et qui la coupe en morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend de l'énergie qui a été léguée à la matière par le Big Bang. Quand je donne un coup de pied dans un ballon, je lui donne de l'énergie. Le Big Bang a donné des coups de pied dans plein de ballons qu'on appelle les particules de matière. Et toute cette énergie, elle est subdivisée en plein de petites billes d'énergie qu'on appelle des particules de lumière, les photons. Parce que les photons, ce sont des grumeaux d'énergie, ce sont des grains de sable d'énergie. Et donc, le Soleil fabrique des grains de sable d'énergie. C'est comme de l'érosion. Lorsque de l'eau vient lécher la falaise et transforme la roche d'un gros bloc en plein de petits cailloux, c'est ça que fait l'étoile. Or, cette capacité de subdiviser de l'énergie en plein de petits morceaux participe à l'histoire d'un univers qui s'organise, qui se structure en forme de plus en plus complexe. La lumière du soleil, c'est ce qui nourrit les plantes, c'est ce qui nourrit la vie, c'est ce qui nourrit tout ça. Donc, vu de loin, une étoile, c'est une source de lumière qui produit de l'érosion de l'énergie, qui fabrique plein de petites sources. Elle est née en partie grâce à la gravité qui fait que les choses s'attirent, mais en réalité, elle est née du fait que entre le Big Bang et la naissance du soleil, se sont produits toute une succession de mécanismes qui ont produit des grains de sable, de l'érosion, de l'énergie. Alors, au moment où je parle, dans le Soleil, dans le cœur du Soleil, il y a 700 millions de tonnes à chaque seconde d'hydrogène qui fusionne en hélium et il y a environ 4 millions de tonnes de cette énergie qui se volatilise sous la forme de lumière. C'est-à-dire que le Soleil perd environ 4 millions de tonnes de masse à chaque seconde. Donc, entre le début et la fin de cette phrase, le Soleil a perdu 40 millions de tonnes. D'accord ? Donc, c'est beaucoup, mais c'est rien par rapport à sa masse, puisque sa masse est 2 10 puissance 30 kilos. Et cette masse qui se volatilise, c'est de la lumière. C'est le E égale MC2 d'Einstein.
Mais du coup, à un moment donné, il va mourir, il va s'éteindre, non ?
Oui, exactement.
Et on sait quand ?
Alors, on pense que c'est dans environ 5 milliards d'années que toutes ces fusions nucléaires qui ont lieu au centre du Soleil vont avoir épuisé toutes les réserves d'hydrogène, que l'étoile va s'effondrer sur elle-même, va donner naissance à un objet concentré qu'on appelle une naine blanche. Son enveloppe va s'étendre jusqu'à Mars à peu près et ça sera la fin de notre étoile et de la possibilité de la vie sur Terre.
Oui, par définition, parce que nous, on n'est pas une étoile a priori. alors, du coup, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que ça s'est fait au hasard ? Comment ça marche ? Est-ce qu'il y a un rôle pour le hasard dans la manière dont l'univers se construit ? Est-ce que ça se fait par hasard ou est-ce que c'est assez structuré finalement et on arrive à définir comment ça va évoluer ?
Alors, c'est toute l'ambiguïté du fameux titre « Hasard et nécessité
». Bah oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on entend dans « nécessité », moi-même, j'ai toujours eu du mal à comprendre ce terme parce que je pensais au début que la nécessité, c'était une cause, c'est une sorte de finalité. En réalité, la nécessité, c'est le fait qu'il y a toujours une cause nécessaire. Il y a nécessairement une cause à chaque processus. Et donc, tous les processus qu'on voit n'arrivent pas par pur hasard. Ils arrivent du fait d'une cause physique. Mais la façon avec laquelle s'exprime cette évolution de la matière dans l'univers peut relever du hasard. Et les deux sont compatibles.
D'accord.
Donc, une façon de voir ça, c'est lorsque de l'eau tombe sur une montagne, par exemple, sous l'effet de la pluie, et vient nourrir une rivière... La gravité va faire que ça va toujours aller vers le bas, nécessairement ça irradie vers le bas, mais le trajet que suivra la rivière relèvera du hasard. Et donc, dans ces hasards-là, naissent des rivières analogues à celles qu'on voit sur les montagnes, dans l'espace interstellaire. C'est une découverte tout à fait récente qu'on a découverte dans l'invisible. Quand on regarde dans les couleurs de l'invisible, dans l'infrarouge, dans le domaine millimétrique, on découvre des rivières